Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour, bienvenue à l'écoute de cette édition matinale du 7 mai 2014 en direct du studio 13 de La Voix de l'Amérique à Washington. Avec vous, Nathalie Barge, en compagnie de Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
Journée sans médias aujourd'hui en Centrafrique pour protester contre l'assassinat de deux journalistes.
Jusque là, on était menacés. C'était des menaces verbales. Les journalistes étaient arrêtés, mais jamais, même sous Bokassa, aucun journaliste n'a jamais été tué.
Makabo Sokoto, président du groupement des éditeurs de la presse privée. La secrétaire générale adjointe aux affaires humanitaires au chevet du Tchad, touchée par les crises en Centrafrique et au Darfour.
I hope that my visit will be an opportunity to raise the profile of the impact of the Central African Republic crisis on Chad.
Valérie Amos s'est rendue notamment dans le Kanem où de nombreux Tchadiens souffrent de la malnutrition. Les étudiants burundais reprennent les cours après 2 mois de grève. Alors nous aurons d'autres sujets magazine juste avant les sports et la page musicale de Roger Muntou. Mais on commence par un bulletin d'actualité.
Nigeria tout d'abord. Selon les habitants de Warabe, un village du nord-est du pays, des militants islamistes ont enlevé 8 autres filles âgées de 12 à 15 ans. Des hommes armés auraient fait irruption dans leur village dimanche et ils auraient également volé de la nourriture et de l'élevage. Boko Haram a revendiqué la responsabilité de l'enlèvement de plus de 300 lycéennes le mois dernier dans la ville de Chibok. Certaines ont réussi à s'échapper, mais 276 autres sont toujours portées disparues. Dans une interview hier sur la chaîne NBC, le président américain Barack Obama a qualifié cet enlèvement de masse de situation révoltante et il a appelé à une mobilisation internationale contre Boko Haram. Les États-Unis vont envoyer une équipe d'experts au Nigeria pour aider dans les recherches et Londres apporte également son soutien à Abuja. Chérubin Dorsil.
Le secrétaire d'État américain John Kerry a appelé hier le président nigérian pour lui proposer des experts américains pouvant aider dans les recherches. Apparemment, le président Goodluck Jonathan a accepté l'offre américaine. Jen Psaki, porte-parole du département d'État, précise le contenu de l'entretien téléphonique entre les deux hommes. Une équipe interdisciplinaire qui pourrait fournir une expertise en renseignement, enquête et négociation sur les otages, faciliter le partage de l'information et apporter assistance aux victimes, dit-elle. Londres a aussi annoncé son soutien et une aide pratique au gouvernement d'Abuja. William Hague, secrétaire britannique aux affaires étrangères. Ce qui se passe ici avec les actes de Boko Haram utilisant ces jeunes filles comme butin de guerre, les fruits du terrorisme, sont dégoûtants, c'est immoral. Cela devrait montrer à tout un chacun à travers le monde que personne ne devrait apporter son soutien à une organisation aussi ignoble. Dans une vidéo publiée lundi, Aboubakar Shekau, le leader de Boko Haram, a revendiqué l'enlèvement des plus de 200 collégiennes depuis la mi-avril. Il a menacé, selon ses propres termes, de les vendre sur le marché.
Le secrétaire d'État américain John Kerry a annoncé des sanctions financières contre 2 généraux du Soudan du Sud accusés d'exactions contre des civils. Il s'agit de Marial Chanyong, un commandant des forces gouvernementales, et de Peter Gadet, un chef militaire de la rébellion de Riek Machar. Lors d'une rencontre hier avec la chef de la diplomatie européenne, Catherine Ashton, M. Kerry a déclaré que les deux hommes sont responsables de violences inconcevables commises contre des civils, selon ses termes. « Nous ferons tout notre possible pour empêcher le Soudan du Sud de sombrer à nouveau dans la violence et le désespoir qui a déchiré ce pays pendant si longtemps », a dit M. Kerry.
Par ailleurs, le secrétaire général des Nations Unies a annoncé que le chef rebelle sud-soudanais a accepté de participer à des pourparlers de paix à Addis Abeba. S'exprimant à Djouba, capitale du Sud-Soudan, Ban Ki-moon n'est pas allé jusqu'à dire si Riek Machar s'entretiendrait personnellement avec le président Salva Kiir, qui a déclaré de son côté être prêt à rencontrer le chef de la rébellion dans la capitale éthiopienne. Monsieur Ban a précisé que Riek Machar n'a pas garanti de pouvoir se rendre à Addis Abeba d'ici vendredi, date prévue pour cette réunion, en raison de sa situation dans une zone reculée.
Les Sud-Africains se rendent aux urnes aujourd'hui pour les élections législatives, les 5e depuis l'avènement de la démocratie en 1994. Précision de Bagassi Koura.
Plus de 25 millions de Sud-Africains sont appelés aux urnes pour élire 400 députés qui eux-mêmes désigneront le prochain président le 21 mai. Jacob Zuma, 72 ans au pouvoir depuis 2009, devrait être reconduit. Les sondages donnent un peu plus de 60% des voix à l'ANC qu'il dirige, donc moins que les 65,9% réalisés il y a 5 ans. En 1994, près de 20 millions de Sud-Africains avaient attendu pendant de longues heures pour participer à la première élection démocratique du pays. Depuis, les Sud-Africains ont perdu l'enthousiasme. Beaucoup se disent dégoûtés par les allégations de corruption sur le président Jacob Zuma. D'autres sont déçus du bilan de l'ANC qui n'a pas réussi à fournir les services de base comme l'eau potable, l'électricité et du travail pour beaucoup de jeunes noirs. Malgré tout, l'ANC est donné favori. Les résultats sont attendus le 10 mai.
La Somalie est le pire pays au monde pour être mère de famille, selon le classement annuel effectué par Save the Children. Le classement 2014 compare les conditions dans lesquelles se trouvent les mères de famille dans près de 180 pays. Comme dans le classement 2013, les 10 dernières places sont toutes occupées par des pays africains. En tête du classement, la Finlande, devant la Norvège et la Suède. La France est 20e et les États-Unis occupent la 31e place.
Les autorités du Niger ont décidé de fermer un nouveau site aurifère dans le nord du pays. Depuis la mi-avril, des dizaines de milliers de personnes se précipitent vers ce site dont la fermeture n'est pas du goût de la population locale qui s'est lancée dans la ruée vers l'or. Des détails avec Michel Joseph.
La découverte du site a provoqué une ruée vers l'or dans la commune du Djado, une zone désertique dans la région d'Agadez au nord. Les autorités nigériennes disent avoir recensé plus de 10 000 personnes sur le site aurifère, dont des Tchadiens, des Libyens et des Soudanais. Ce qui, selon le gouvernement nigérien, pose des problèmes sanitaires et sécuritaires. Ainsi, Niamey a décidé d'interdire l'accès à tous ces orpailleurs et a attribué un permis de recherche à la Sopamine, la Société des patrimoines des mines du Niger, une société publique. L'armée a été déployée pour sécuriser le site dont les réserves en or ne sont pas connues. Mais un communiqué des ressortissants du Kawar dans le nord s'insurge contre la fermeture du site. Pour rappel, dans les années 90, la région du Kawar avait été le théâtre d'une rébellion Toubou, une ethnie minoritaire qui exigeait le développement économique et social de cette région extrêmement pauvre et désertique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Si Moscou interfère dans l'élection présidentielle du 25 mai en Ukraine, les États-Unis imposeront davantage de sanctions contre la Russie, a déclaré le secrétaire d'État américain. Lors d'une réunion à Washington hier avec la chef de la diplomatie européenne, Catherine Ashton, John Kerry a souligné que les États-Unis ne resteraient pas les bras croisés, tandis que la Russie encourage l'instabilité en Ukraine. Jusqu'ici, les sanctions ont déjà eu un impact majeur sur l'économie russe en difficulté et les États-Unis et ses alliés ne font que commencer, a ajouté M. Kerry. Catherine Ashton a considéré l'élection présidentielle en Ukraine comme une étape importante vers la stabilisation. Hier, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a mis en doute la légitimité de l'élection en Ukraine en raison de l'action militaire ukrainienne dans l'Est contre les séparatistes pro-russes.
L'Arabie saoudite affirme avoir démantelé un réseau d'extrémistes liés à Al-Qaïda. Selon les autorités saoudiennes, ils planifiaient des attentats contre le gouvernement et des cibles étrangères. Des précisions avec Morgane Guiriec.
Les responsables du ministère de l'Intérieur disent avoir appréhendé 62 membres présumés de la cellule, dont 59 saoudiens et 3 étrangers. Ils disent que certains membres du groupe sont toujours en fuite. Les autorités saoudiennes précisent que leur surveillance des activités suspectes sur les réseaux sociaux a conduit à ces arrestations. Un porte-parole du ministère de l'Intérieur, cité par l'agence Reuters, explique que la cellule avait des liens avec l'État islamique d'Irak et du Levant, un groupe djihadiste actif à la fois en Irak et en Syrie. Le même porte-parole explique que les autorités ont découvert un laboratoire de fabrication d'explosifs et saisi près de 270 000 dollars destinés à financer cette cellule.
Immigration aux États-Unis, l'administration américaine propose deux nouvelles lois censées attirer et retenir les travailleurs hautement qualifiés. Jean-Roger Bion.
La première mesure va permettre aux conjoints des personnes titulaires d'un visa H1B de pouvoir travailler. Les entreprises américaines utilisent le programme de visa H1B pour embaucher des travailleurs étrangers dans des emplois exigeant des compétences en sciences, en ingénierie, dans la programmation informatique et dans d'autres domaines spécialisés. La deuxième proposition de loi lève les obstacles pour certains groupes de travailleurs hautement qualifiés afin qu'ils puissent rester aux États-Unis. Le département de la sécurité intérieure estime que l'une dans l'autre, ces deux propositions vont contribuer à attirer de nouvelles entreprises et de nouveaux investissements aux États-Unis et faire en sorte que l'Amérique possède la main-d'œuvre la plus qualifiée dans le monde. L'immigration divise la classe politique ici aux États-Unis. La réforme envisagée est au point mort au Congrès. Les défenseurs des immigrants attendent du président américain Barack Obama qu'il agisse par décret.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui en direct du Studio 13 de La Voix de l'Amérique à Washington avec vous, Nathalie Barge. Et nous retrouverons Anne Albertson dans un petit quart d'heure pour un rappel des titres. Le 24e Forum économique mondial pour l'Afrique s'ouvre ce mercredi à Abuja, la capitale fédérale du Nigeria. Un sommet placé sous sécurité maximale après la récente multiplication des attaques, dont l'enlèvement massif de plus de 200 lycéennes perpétrés par les islamistes de Boko Haram. Dans la perspective de l'ouverture de ce forum, le président nigérian Goodluck Jonathan a déclaré que la terreur n'empêcherait pas l'Afrique de progresser. Des précisions avec Jacques Aristide.
13 chefs d'État et 1000 délégués sont attendus à Abuja pour prendre part au Forum économique mondial pour l'Afrique, surnommé le Davos africain. Participation également du Premier ministre chinois Li Keqiang. Pour les organisateurs, l'événement sera l'un des plus importants en comparaison avec les précédents forums, vu le nombre de participants attendus. Ce sont des représentants de plus de 70 pays d'Afrique et du monde, dont des hommes d'affaires, des membres de la société civile, de même que des leaders religieux. Toutefois, les préoccupations sécuritaires ont dominé la phase préparatoire du sommet. Le Nigeria a été ébranlé par des violences récurrentes attribuées au groupe armé Boko Haram, dont deux récents attentats à la voiture piégée dans une banlieue d'Abuja et le rapt massif de plus de 200 écolières. Mais le chef de l'État nigérian rassure, Goodluck Jonathan affirme que les assaillants ne vaincront pas.
Terror will not stop us from work.
La terreur n'empêchera pas l'Afrique de progresser. Ce sont des actes de diversion, des actes commis par un groupe qui veut ralentir le continent. Lorsqu'un pays montre des signes de progrès, ces personnes tentent de le ramener en arrière.
Mais les détracteurs du régime nigérian l'accusent d'avoir une part de responsabilité dans cette spirale de violence. Clément Nwankwo appartient au Policy and Legal Advocacy Center dans la capitale fédérale.
En ce qui nous concerne, nous nous posons des questions comme par exemple, qui a véritablement déclenché les bombes qui ont explosé à Abuja? Peut-être qu'il ne s'agit même pas de Boko Haram. Les Nigériens sont donc en train de s'interroger sur ces choses-là.
Une sécurité tous azimuts a été mise en place à Abuja, la ville quasiment fermée pour abriter ce forum économique mondial qui a pour thème bâtir une croissance inclusive et créatrice d'emplois avec l'espoir d'une meilleure coopération entre pays africains en matière de commerce, d'innovation et d'investissement pour mieux exploiter les potentiels du continent.
À Bangui, en Centrafrique, les journalistes ont décidé d'organiser ce mercredi une journée sans médias sur l'ensemble du pays afin de protester contre l'assassinat cette semaine de deux confrères. Idriss Fall a joint Maka Bosokoto, président du groupement des éditeurs de la presse privée, directeur du journal Le Citoyen.
C'est pour honorer la mémoire de nos deux confrères qui sont décédés, victimes d'agressions de bandes armées. Il y a un qui est décédé par suite d'attaques à la grenade, notre confrère René Padou, et Sayenga, le premier, qui est décédé le 1er mai. Il a été agressé par trois individus qui l'ont roué de coups et tailladé, et ensuite a reçu un tir au niveau du cœur. Il est mort le lendemain, le 1er mai. C'est à cause de cela, parce que jusque-là, on était menacés. C'était des menaces verbales. Les journalistes étaient arrêtés, mais jamais, même sous Bokassa, aucun journaliste n'a jamais été tué. Mais là, ça dépasse l'entendement. On ne peut pas supporter, c'est pour cela que ce sera une journée sans journaux, qui sera appuyée par une marche pacifique qui partira de la place des Nations Unies jusqu'au siège de la MINUSCA. C'est pour protester vis-à-vis de la communauté internationale dont les forces qui sont déployées à Bangui ne remplissent pas leur rôle, ne respectent pas du tout l'application stricte des résolutions 2121 et 2127 qui leur demandaient d'utiliser la force pour désarmer les milices ou bandes armées ou les rebelles.
Qu'est-ce que c'est qu'être journaliste en Centrafrique actuellement?
Être journaliste en Centrafrique, c'est être comme M. Lambda, c'est vous. C'est-à-dire ça ne pèse pas, il n'y a aucun respect pour le journaliste. C'est pour ça qu'on les tue comme des bêtes de somme. On va à leur domicile, on envoie des grenades accompagnées de tirs, d'armes automatiques, etc. Et ou bien on te trouve dans la rue, après le travail, on te tue, comme tous les civils centrafricains qui meurent actuellement. Donc c'est à la merci de tout le monde.
C'était Maka Bosokoto, président du groupement des éditeurs de la presse privée en Centrafrique.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine, à Bangui, sur 101.7 FM.
La secrétaire générale adjointe aux affaires humanitaires et coordonnatrice des secours d'urgence de l'ONU s'est rendue au Tchad pour la première fois. Valérie Amos est venue s'enquérir des conditions de vie des rapatriés de la République centrafricaine et des réfugiés soudanais dans l'est du pays afin d'y apporter une solution appropriée. Voici le reportage de notre correspondant à N'Djamena, François Djekombe.
Pour sa première visite au Tchad, la coordinatrice des secours d'urgence de l'ONU, Valérie Amos, a eu des entretiens avec les autorités tchadiennes, puis s'est rendue mardi au site de Gawi, à 10 km à la sortie nord de N'Djamena, où sont cantonnés plus de 3000 déplacés de la République centrafricaine. Elle s'est ensuite rendue à Mao, dans le Kanem, vers l'est du pays, région frappée presque annuellement par une malnutrition sévère. Après avoir touché du doigt les réalités que vivent les déplacés et réfugiés centrafricains et les réfugiés soudanais, Madame Valérie Amos compte plaider pour la situation dramatique au Tchad.
I hope that my visit will be an opportunity to raise the profile.
J'espère que ma visite sera l'occasion d'accroître la visibilité de l'impact de la crise de la Centrafrique sur le Tchad, l'occasion pour le Tchad d'être reconnu en tant que pays accueillant des réfugiés et non seulement de la République centrafricaine, mais aussi du Soudan, et qu'elle nous permettra aussi de lever les fonds dont nous avons besoin pour donner aux gens qui ont traversé la frontière, ainsi qu'aux Tchadiens eux-mêmes, le soutien dont ils ont besoin.
Le coordinateur du système des Nations Unies au Tchad indique que la malnutrition frappe chaque année plus de 135 000 enfants tchadiens. Cependant, l'appel à l'aide lancé n'a permis de récolter que moins de 10% des besoins exprimés. Tout de même, il se réjouit qu'une solution locale soit en phase d'être trouvée au problème de la malnutrition au Tchad. Thomas Gurtner.
Maintenant, le défi dans l'urgence reste qu'il faut beaucoup de moyens. Mais nous étions très heureux d'apprendre qu'il y a une initiative pour commencer à produire localement des produits qui peuvent pallier à la malnutrition, vu que vous êtes un grand pays de producteurs d'arachide et de spiruline. Il y a là un potentiel énorme de ne plus devoir importer ces produits spécifiques contre la malnutrition, mais de commencer, on espère, dans un futur proche, de produire ça localement, ce qui va réduire les coûts et va nous donner la possibilité effectivement d'avoir une action d'envergure beaucoup plus grande.
N'Djamena, François Ndjekombe, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Au Burundi, après 2 mois de grève, les étudiants des universités publiques et de l'école normale supérieure ont décidé de reprendre les cours. Ils s'opposaient notamment à la réforme des bourses étudiantines. Ils disent être revenus à de meilleurs sentiments suite aux recommandations de la réunion de lundi entre le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et les professeurs d'université. Timothée Donangmaï a joint hier soir à Bujumbura William Matege Kimana, un représentant des étudiants de l'école normale supérieure du Burundi.
Les professeurs et le ministre se sont entendus que tous les étudiants vont percevoir leurs bourses jusqu'au jour où aura lieu les états généraux de l'enseignement au Burundi. Après les états généraux, nous ne savons pas ce qui va se passer. Peut-être que le gouvernement va essayer d'expliquer à la communauté ou aux partenaires le pourquoi de la suspension ou le pourquoi de la réforme de l'octroi de la bourse. Bien sûr, il y aura d'autres programmes ou d'autres réformes. Et s'ils parviennent à convaincre les étudiants ou la communauté, peut-être qu'après les états généraux, le mode d'octroi de la bourse va changer, ou bien on va continuer avec ce qui se faisait dans l'ancien temps.
Pouvez-vous nous rappeler vos griefs par rapport à la réforme de la bourse?
Dans les années passées, il y avait une méthode qu'on utilisait pour donner de la bourse, mais avec l'année académique qui commence, c'est-à-dire l'année académique 2013-2014, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ou bien le gouvernement du Burundi, avait décidé que à chaque fois qu'un étudiant reprend l'année, il perd automatiquement la qualité d'un boursier pour la reprendre aussitôt qu'il réussit ou qu'il avance de classe. Ce qui n'a pas plu aux étudiants, parce que depuis que l'université existe au Burundi, chaque fois qu'un étudiant reprenait l'année, on lui donnait la bourse. Mais s'il reprenait encore l'année, deux fois dans une même salle de classe, il perdait automatiquement la qualité d'un boursier pour la reprendre à chaque fois ou aussitôt qu'il avançait de classe.
Étant donné les problèmes économiques auxquels font face tous les pays du monde, est-ce qu'il est réaliste de penser qu'on va continuer de donner la bourse à tout le monde, y compris à ceux qui reprennent une classe?
Nous aussi, les étudiants, nous sommes convaincus qu'avec les problèmes liés à l'économie qui secouent tout le monde, sans épargner aussi le Burundi, il faut faire une réforme. Mais ce qui nous avait beaucoup surpris, c'est que cette réforme avait eu lieu sans que ni les étudiants, ni les professeurs, ni les administratifs des différentes universités, ni les partenaires, les différents partenaires qui essaient d'aider dans le domaine de l'éducation soient consultés. Alors c'est pour cette raison que les étudiants se sont révoltés. Mais une fois que le gouvernement essaie d'expliquer le problème, je crois que les étudiants vont comprendre.
William Atege Kimana, un représentant des étudiants de l'école normale du Burundi, était joint à Bujumbura.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, plein feu sur le Forum économique mondial pour l'Afrique qui se tient cette semaine au Nigeria. Malgré les préoccupations sécuritaires, qu'attendez-vous de ce sommet? Vos commentaires sur la page Facebook de Washington Forum. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h TU. Sur la VOA.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. À présent, les sports avec Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Bonjour Nathalie.
Alors en football, on peut dire que Liverpool a presque perdu le titre de champion d'Angleterre.
Oui, ils avaient l'avantage, mais lundi, Liverpool a perdu sans doute sa dernière chance de titre en concédant le nul 3-2 à Crystal Palace après avoir mené, s'il vous plaît, 3-0. Les Reds n'ont qu'un point d'avance sur Manchester City qui compte un match de retard et qui a une meilleure différence de but. Et croire que Liverpool court derrière ce titre depuis 24 ans. Manchester City joue ce soir son avant-dernier match contre Aston Villa.
En NBA, Kevin Durant a été désigné meilleur joueur de la saison.
Oui, le numéro 35 d'Oklahoma City remporte cette distinction pour la première fois de sa carrière. Il a été sacré meilleur marqueur de la saison 2013-2014 pour la quatrième fois en 5 ans. Il devance LeBron James des Miami Heat et Blake Griffin des Clippers de Los Angeles. Joakim Noah, le fils du franco-camerounais Yannick Noah des Chicago Bulls, déjà élu meilleur défenseur de la saison, n'a eu que la quatrième place. Et Nathalie, les play-offs de la NBA continuent.
Et oui, Bagassi, deux matchs hier soir, les Heat de Miami ont gagné à domicile contre les Nets de Brooklyn par 107-86. Et au Texas, les Spurs de San Antonio ont battu les Trail Blazers de Portland par 116-92. À présent, une page musicale avec Roger Muntou. Bonjour Roger.
Salut Nathalie. En 2003, Jocelyne Labille rencontre Passy, Sheila et Jacob Devarieux. Ils réalisent le single « Laisse parler les gens ». Le disque s'évend à plus de 500 000 exemplaires et est nommé aux victoires de la musique. Ce single reçoit la certification disque de platine. On écoute « Laisse parler les gens ».
Hey yo, Yemen, special combination. Justin Shella, original tune. Yemen, respect on time.
Laissons parler les gens. Laisse parler les gens.
Moi je viens d'Afrique.
Lorsqu'elle était enfant, Jocelyne Labille voulait être danseuse, n'est-ce pas comme sa mère qui était danseuse dans les ballets Caribana?
Oui, Nathalie, mais elle a vite changé d'avis hein, lorsqu'elle rencontre José à Vildina et rejoint le groupe Zouk Orchestra, déjà réputé dans la Caraïbe. Mais après 3 albums avec le groupe, Jocelyne Labille décide de déménager en France. Et voilà, aujourd'hui, nous avons l'Espagne les gens.
Jocelyne Labille, Sheila Jacob Devarieux et Fassi dans Laisse passer les gens. Merci Roger.
De rien Nathalie et bonne journée à toi.
Roger Muntou que vous retrouvez dans le RM Show chaque jour à 20h, temps universel.
Laissons parler les gens. Laisse parler les gens. Laissons parler les gens.
Laisse parler les gens.
Le monde aujourd'hui en direct du studio 13 de La Voix de l'Amérique à Washington. À présent, un rappel des titres avec Anne Albertson.
Les habitants de Warabe, dans le nord-est du Nigeria, disent que des islamistes ont enlevé 8 autres filles dimanche. Boko Haram a revendiqué la responsabilité de l'enlèvement de plus de 300 lycéennes en avril à Chibok. Le secrétaire d'État américain John Kerry a annoncé des sanctions contre 2 généraux du Soudan du Sud accusés d'exactions contre des civils. Et selon le secrétaire général des Nations Unies, Riek Machar, le chef rebelle sud-soudanais, a accepté de participer à des pourparlers de paix à Addis Abeba. Les Sud-Africains se rendent aux urnes aujourd'hui pour les élections législatives, les 5e depuis l'avènement de la démocratie en 1994 dans ce pays. Et si Moscou interfère dans l'élection présidentielle du 25 mai en Ukraine, les États-Unis imposeront plus de sanctions à la Russie, a déclaré le secrétaire d'État américain John Kerry.
Et voilà, ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui, présenté par Nathalie Barge et Anne Albertson. Merci à toute la rédaction, chers auditeurs, bonne journée et à très bientôt sur La Voix de l'Amérique.
Pour les dernières nouvelles en Afrique, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, retrouvez-nous sur Internet, Facebook et Twitter. Washington, La Voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.